L'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci de votre confiance. Dans 30 minutes, la Libre Antenne, nous sommes vendredi, et vous connaissez le principe du vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué tout au long de la semaine. On parlera évidemment football, après l'humiliante élimination hier de l'Algérie par la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. On connaît désormais le programme des huitièmes de finale, donc faites-vous plaisir, vos pronostics ce matin sur RFI. Des réactions également sur la crise que traverse l'UDPS, le parti présidentiel en RDC, puisque son président par intérim est poussé peu à peu vers la sortie. On parlera de la Côte d'Ivoire avec la reprise hier du dialogue politique. Vous nous appelez encore de Guinée concernant l'avenir d'Alpha Condé. L'ex-président guinéen reviendra-t-il des Émirats Arabes Unis où il se fait soigner? Et encore beaucoup de réactions, comme chaque semaine, sur le Mali, notamment après les sanctions économiques de la CEDEAO. Voilà donc un aperçu de la Libre Antenne. Vous nous rejoignez, vous nous appelez 33 9 693 693 70 et je vous attends également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et on va commencer avec des questions sur les Jeux Olympiques d'hiver. Nous sommes à 2 semaines du coup d'envoi. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de nous appeler de Matadi en RDC. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Face à la crise sanitaire, j'ai entendu que Pékin a suspendu la vente des billets à 2 semaines du début des Jeux Olympiques. Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura pas de spectateurs?
Ah, effectivement.
Ils sont prévus, oui.
Oui, je vous ai coupé la parole, pardon, vous disiez.
Est-ce que de nouveaux protocoles sont prévus pour l'accueil des athlètes?
Eh bien, vous savez quoi, pour vous répondre, nous avons contacté le correspondant permanent de RFI à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Rousseau.
Le comité d'organisation a donc décidé d'annuler la vente de billets en raison de la situation épidémique qualifiée sur place de compliquée. Est-ce à dire, Stéphane, que les athlètes seront privés de public?
Eh bien oui, alors ça dépend ce qu'on attend, on entend par public, Juan. Il n'y aura pas de spectateurs, en tout cas les spectateurs au sens où des gens qui achètent des billets. C'est la grosse déception d'ailleurs ici, hein, pour une partie des fans des JO que nous avons rencontrés toute la semaine dernière. Nous avons été voir ces fans des sports d'hiver. On s'attendait, nous aussi, ils s'attendaient. On a vu une maman qui était prête à acheter pour toute sa famille, faire la surprise parce qu'elle adore par exemple le saut à ski. Mm-hmm. Et finalement, en fin de semaine, donc, on n'a pas pu acheter ces billets. Pourquoi ? Les gens sont déçus parce que tout simplement ici, vous le savez, le président chinois, quand ils ont obtenu pour la deuxième fois les Jeux à Pékin, ils ont promis d'avoir 300 millions de Chinois qui feraient des sports d'hiver. Il y en a aujourd'hui 348 millions. Il y a eu 3500 km de pistes de ski construites. Enfin, je ne vais pas faire tout ça, mais il y a des patinoires en ville aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de fans et beaucoup de gens qui voulaient y aller. Et non, finalement, il n'y aura pas de billetterie. Alors, nous, on s'y attendait un peu, hein, les journalistes quand même, que finalement, ils allaient enlever ça. Mais il y aura quand même du public, Rousseau, en tout cas un public invité. Donc, ça sera ce qu'avaient dit les organisateurs de Pékin. Il y aura, ils avaient promis qu'aux Jeux de Pékin, contrairement aux Jeux de Tokyo, il y aurait quand même des gens dans les gradins.
Oui.
Mais on ne sait pas encore qui exactement. On ne sait pas comment ils vont les sélectionner. En tout cas, il y aura un public invité, des invités, donc qui n'iront pas acheter des billets, mais qui pourront aller dans le stade. Alors je ne sais pas comment, quels sont les critères ils vont prendre pour ces invités. Une petite info quand même, Rousseau, moi, depuis hier, on a reçu hier, nous les journalistes ici en Chine, on a reçu un formulaire à remplir en nous disant de formuler des souhaits, quel sport on voulait voir, quelles épreuves on voulait voir. Donc on a rempli une liste de 3 souhaits. Moi j'ai mis par exemple le saut à ski notamment. Et donc on devait aussi remplir des conditions. Donc je ne sais pas si on sera invité finalement, mais on pourrait peut-être faire partie de ces invités, nous les journalistes ici, et puis d'autres gens. Et parmi les conditions qui nous étaient demandées, c'était d'avoir un parcours vaccinal complet, donc 3 doses de vaccin, 2 doses plus une, oui, plus le booster. Et puis aussi de ne pas avoir quitté Pékin dans les 2 à 3 semaines, le 15 janvier donc. De ne pas avoir quitté Pékin, d'être resté dans Pékin et de ne pas avoir voyagé avant.
Donc il voilà, y, y aura bien des spectateurs maîtriés sur le volet. Quid des athlètes? J'imagine qu'un protocole strict est prévu.
Alors oui, très très strict, parce que pour eux, les athlètes, eux, seront dans une bulle sanitaire. On les verra pas, nous, les athlètes. On n'aura pas de contact direct avec eux. Nous, quand je dis nous, c'est moi qui suis en dehors et les habitants de Pékin. On ne verra pas les athlètes. Ils seront dans une bulle sanitaire, des bulles sanitaires, finalement. Dès qu'ils vont arriver à l'aéroport de Pékin, eh ben, il y aura un endroit qui sera que pour eux, qui sera une bulle sanitaire avec des gens en combinaison de protection qui vont les accueillir. Ils vont monter dans des bus qui seront des bulles sanitaires. La semaine dernière, par exemple, les autorités de Pékin ont dit, si jamais vous avez un accident avec un bus des athlètes ou une voiture des délégations officielles, surtout n'intervenez pas, appelez les autorités qui vont envoyer des brigades spéciales, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact entre la population et les athlètes. Donc ils seront dans cette bulle sanitaire avec un... Ils n'auront pas de quarantaine. S'ils ont fait un parcours vaccinal complet, ils n'auront pas de quarantaine, mais 14 jours avant de venir en Chine, ils doivent télécharger une application sur leur téléphone en remplissant leur température, en disant voilà, il y a tout un protocole à faire. Et puis quand ils seront, ils auront un test Covid à présenter de 96 heures avant d'arriver. Ils auront au moins deux tests en arrivant, donc des tests PCR, hein, comme vous devez connaître aussi, Rousseau, chez vous. Et voilà, et après, tout le temps, tous les jours, ils devront donner leur température et ils seront testés tous les jours. Donc il y a un protocole très strict. Et si jamais malheureusement l'un d'eux était malade, hein, était simplement avait le Covid, il y aurait le protocole qu'on appelle ici le zéro Covid en Chine. Donc c'est un protocole très strict. Vous êtes immédiatement isolé. Je crois qu'il y a une possibilité d'être. C'est moins isolé que pour les personnes lambda, mais enfin c'est quand même un protocole assez strict effectivement.
Ouais, Rousseau, j'imagine que Stéphane Lagarde a répondu à vos questions. Il a été complet.
Oui, merci Stéphane, merci.
Et on lui souhaite une belle journée à Pékin. À bientôt Stéphane Lagarde. Rousseau, belle journée également à Matadi, où il est 10h17, 9h17 ici à Paris. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Des questions sur les tensions entre le Maroc et l'Algérie.
Effectivement. Les tensions sont au plus haut entre l'Algérie et le Maroc après qu'Alger ait déployé du matériel militaire russe à la frontière entre les deux pays. Avec cette escalade, les risques d'une guerre ouverte entre les deux pays se concrétisent-ils ?
Ah, ça c'est une bonne question Abdoulaye, d'autant que l'Algérie et le Maroc ont augmenté leur budget militaire pour cette année 2022. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po. Des sources militaires citées par la presse algérienne affirment effectivement qu'Alger a récemment déployé du matériel de contrôle sophistiqué de fabrication russe à la frontière avec le Maroc. Il se trouve, Kader Abderrahim, que de l'autre côté de la frontière, donc côté marocain, on est en train d'aménager plusieurs bases militaires. On a comme l'impression qu'on assiste là à une course à l'armement de part et d'autre de cette frontière.
Je suis d'accord avec vous sur ce point. Il y a une course à l'armement qui est ancienne entre les deux pays qui se livrent à une rivalité qui aurait pu être émulative, si je puis dire, dans le sens où chacun court après la première place. Sauf que là, nous sommes passés de l'émulation à la stratégie de la tension, avec les frontières qui sont fermées depuis maintenant presque 30 ans, oui, avec une stratégie de la tension et sur le plan diplomatique. Mais je ne crois pas, tout simplement parce que ça n'est de l'intérêt de personne, qu'on y ait jusqu'à un affrontement direct et un conflit ouvert.
Donc pas de risque d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, mais on sait bien, et vous le savez mieux que quiconque, Kader Abderrahim, que le moindre incident le long de cette frontière peut entraîner des tensions bien plus vives et la situation pourrait à ce moment-là dégénérer.
C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un dérapage qui ne serait pas contrôlé, mais du point de vue strictement institutionnel, les deux États maîtrisent cette tension, si j'ose dire, et on est dans cette stratégie de la tension pour tenter de faire plier le bras de l'autre. Alors, ce bras de fer, aujourd'hui, il n'est dans l'intérêt de personne et il ne tourne en faveur de personne. tout simplement parce que les puissances, notamment européennes, mais d'autres États importants, on pense ici aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine, ont des intérêts économiques et commerciaux extrêmement importants dans cette région du monde. Oui. Et la dégradation à laquelle on assiste depuis maintenant 3 ans ne devrait pas connaître beaucoup plus que ce que les Algériens, par exemple, ont mis en œuvre, l'arrêt de livraison de gaz, la fermeture de la frontière, la rupture des relations diplomatiques, la rupture des relations aériennes entre les deux pays. Ça fait beaucoup de choses et cela fera sans doute beaucoup de choses à discuter, à négocier lorsque cette page sera tournée. Et sans doute, il y a aussi cette arrière-pensée qui est... comment on viendra à la table des négociations. Et comme vous le savez, la stratégie, évidemment, c'est de toujours négocier en position de force. Donc, il s'agit pour les uns et les autres de penser plutôt à l'après, plutôt, et donc d'assurer que cette tension leur soit plutôt favorable, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Et j'ajoute un dernier point. Aujourd'hui, ni les Algériens, ni les Marocains n'ont envie de se faire la guerre, parce que ce sont deux peuples qui sont très proches et qui ont compris depuis fort longtemps que l'intérêt bien compris et établi du Maroc et de l'Algérie, c'était plutôt d'aller vers une union économique, commerciale, voire politique, plutôt que d'être dans cette rivalité dans laquelle deux voisins, pays frères, se tournent le dos.
Ouais, Abdoulaye a une dernière question à vous poser, Kader Abderrahim. Abdoulaye.
Des acteurs internationaux pourraient-ils se poser en médiateur ?
Réponse rapide, Kader Abderrahim. Excusez-nous, on est pris par le temps.
Oui, des acteurs internationaux. On pense évidemment ici à la France qui joue un rôle. Rappelons quand même qu'il y a 70 000 Français qui vivent au Maroc, ce qui n'est pas rien. Donc, on est dans une situation dans laquelle la France est directement concernée, à la fois en raison de ses liens historiques avec le Maghreb et singulièrement entre l'Algérie et le Maroc, mais la France est dans une situation aussi extrêmement embarrassante, et elle est embarrassée par cette situation et cette crise qui, pour le moment, est diplomatique. Donc, elle pourrait être un médiateur, mais probablement pas acceptée par toutes les parties. Suivez mon regard.
Évidemment. Kader Abderrahim, merci de cette analyse en direct sur RFI. Maître de conférence à Sciences Po, je rappelle aux auditeurs le titre de votre dernier ouvrage publié aux éditions Bibliomonde, auteur donc de Géopolitique du Maroc. Rappelez-vous, on vous en parlait sur RFI il y a 2 semaines, un homme de 57 ans était opéré. Il s'est fait greffer un cœur de porc transgénique. L'opération a eu lieu aux États-Unis, à Baltimore pour être précis. Et Blaise a des questions justement sur cette opération. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, et bienvenue à Boisclé, capitale de la Malawi.
Ah oui, en Côte d'Ivoire.
Voilà.
Merci de nous accueillir sur place. Vos questions ?
Alors, c'est la première fois de l'histoire qu'un cœur de porc a été greffé sur un être humain. Pourquoi avoir choisi le cœur d'un porc et pas celui d'un autre animal, par exemple le singe ? C'est ma première question.
Ouais. Alors, je sais que vous en avez plusieurs. On va y répondre au fur et à mesure avec le docteur Benoît Averland qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour,
directeur adjoint de l'Agence de la biomédecine. Expliquez-nous pourquoi les scientifiques ont choisi de greffer le cœur d'un cochon plutôt que celui d'un primate.
Alors, d'abord, une première précision, c'est pas la toute première fois, mais c'est la toute première fois dans ces conditions-là, parce que le cochon est en fait un allié de choix dans cette course à la xénogreffe. La xénogreffe, c'est la transplantation de cellules ou d'organes de l'animal vers l'homme. On aurait pu effectivement choisir notre cousin singe qui est beaucoup plus proche de nous encore que le cochon, mais il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que sur un plan morphologique, les organes du cochon sont bien plus proches des nôtres, donc plus faciles techniquement à adapter. La seconde, c'est que les grands singes, comme tout le monde le sait, sont aujourd'hui une espèce particulièrement protégée, et surtout en Afrique. Et enfin, la reproduction du cochon est maîtrisée par l'espèce humaine depuis des milliers et des milliers d'années. Celle du singe est beaucoup plus complexe. Les grossesses de singes sont moins nombreuses, plus longues, et l'élevage du singe pour arriver à une taille adulte est infiniment plus long.
Donc, oui. Le cochon est l'allié.
palier de choix.
J'ai cru comprendre qu'il fallait seulement 6 mois pour obtenir chez le cochon un cœur de taille adulte. Donc effectivement, ça va plus vite. Et quand je me mets à la place des auditeurs qui vous écoutent, hein, docteur, vous dites que les portées sont plus nombreuses chez les cochons que chez les singes. Ils doivent se dire, mais quel rapport avec le cœur ? C'est que évidemment, plus il peut y avoir de cochons et plus il peut y avoir de cœur disponible pour toutes les personnes qui sont en attente de greffe.
C'est exactement voilà, ça. Oui. La xénogreffe représenterait aujourd'hui l'une des solutions qui permettrait de réduire l'attente des patients en attente, mais surtout d'avoir, au moment où on en a besoin aujourd'hui, en greffe humaine, on prélève chez des gens qui sont en mort cérébrale. Et donc, lorsque l'on a un cœur, il faut l'utiliser tout de suite et à une personne qui en a besoin. Tandis que là, on pourrait imaginer avoir un cœur disponible lorsque la maladie débute et greffer rapidement des gens. Donc, ce serait, je mets bien le conditionnel, oui, une solution d'avenir.
Oui, effectivement, solution qui porteuse d'espoir. Blaise, vous disiez avoir plusieurs questions. La deuxième.
La deuxième, alors est-ce que cette greffe peut être viable à long terme ?
Alors, viable à long terme. Déjà, nous sommes 2 semaines après cette opération et visiblement, il n'y a pas eu de rejet. C'est déjà une bonne nouvelle, docteur Benoît Verland.
Alors, je ne sais pas s'il y a rejet. Vous savez bien qu'en termes de communication scientifique, il faut attendre d'avoir la totalité des choses et surtout les articles de presse spécialisés. Mais en effet, à ce jour, on est à plus de 2 semaines. On n'a pas eu de communiqué annonçant une problématique chez ce receveur. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne. En fait, il y avait 2 marches essentielles à monter, deux barrières à sauter. La première, c'est la barrière interespèce, c'est-à-dire que l'animal il possède des substances à l'intérieur, on va faire très simple, qui ne sont pas reconnues chez nous. Et dans ces cas-là, dès que c'est à l'intérieur du corps de l'homme, tout se mobilise pour détruire l'intrus. Et la deuxième chose, et c'est d'ailleurs l'un des intérêts du cochon par rapport au singe, c'est que les animaux sont porteurs de maladies virales qui n'existent pas chez nous, et nous en subissons d'ailleurs à l'échelon mondial la transmission entre l'animal et l'homme depuis 2 ans maintenant. Et il faut absolument éviter que ces maladies ne se transmettent entre le greffon et oui, son receveur.
D'où l'importance, docteur, excusez-moi de vous interrompre, de préciser aux auditeurs que le porc dont provient le cœur qui a été greffé à cette personne, c'est un porc génétiquement modifié.
Absolument. Ah oui. Et donc, dans cette modification génétique, on a d'une part retiré les gènes qui expriment les substances dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part, on a réussi à déterminer et donc à retirer, grâce à cette merveilleuse invention qui est le CRISPR-Cas9, donc ces espèces de petits ciseaux génétiques, on a réussi à retirer les gènes qui codaient pour les maladies virales. Donc aujourd'hui, le cœur qui a été utilisé est indemne de toutes ces possibilités, ce qui explique qu'il soit capable de durer dans le temps comme le cœur d'un humain.
Oui, on verra ça évidemment dans les prochaines semaines et les prochains mois, effectivement. Blaise, une dernière question, il nous reste à peine 1 minute.
Alors, est-ce éthique de transplanter un organe d'animal vers un être humain ?
Ah, est-ce éthique ? Qu'en pense le docteur que vous êtes, Benoît Verland ?
Alors moi, je suis médecin et donc mon rôle, c'est avant tout de soigner des gens. Donc j'avoue que je suis assez émerveillé par l'évolution du soin. En revanche, évidemment, il faut que l'humanité garde une forme d'éthique. Alors aujourd'hui, la greffe, c'est une notion de solidarité interhumaine. C'est-à-dire que si un jour je suis dans l'état d'être prélevé, j'accepte que l'on prenne mes organes pour que d'autres vivent, puisque de toute manière, moi, je serai mort. C'est un petit peu le sens. Aujourd'hui, est-ce que du coup, grâce à cette xénogreffe, la greffe deviendrait simplement un geste très anodin ? Par ailleurs, alors je ne fais que poser des questions parce qu'il me semble évident qu'il faut créer les conditions du débat. Dans la société moderne d'aujourd'hui, il faut se poser les questions. On parle partout de bien-être animal de plus en plus régulièrement. Mmh. Est-ce qu'on peut se permettre, nous, humains, de modifier le génome d'un cochon pour en faire une utilisation purement médicale ? Donc ça, ce sont toutes des questions qui sont très, très importantes.
Et des questions qui méritent effectivement débat et réflexion. Je vous interromps, docteur Benoît Verland, on arrive déjà à la fin de cette première partie, c'était passionnant, merci d'avoir pris quelques minutes. Je sais que votre agenda est bien chargé, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'agence de la biomédecine Blaise. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée en Côte d'Ivoire.